Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la sainte sourate Qari'a. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Le coup. Qu'est-ce que le coup? Et qui te dira de ce qu'est le coup? Le jour où les gens seront comme papillons éparpillés et les montagnes comme laine cardée, alors, quant à celui dont les balances seront lourdes, alors, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont les balances seront légères, alors sa destination est une fosse. Et que sais-tu de ce qu'elle est? Un feu ardent.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le mardi 28 Charivar, 1402 du calendrier iranien, 19 septembre 2023. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information, ensuite un commentaire politique. La présence américaine dans le golfe Persique est loin d'être un élément de sécurité, a déclaré le président iranien Ebrahim Raisi. L'échange des prisonniers entre l'Iran et les États-Unis est une mesure purement humanitaire, a déclaré le président iranien. La Corée du Sud a transféré une partie des actifs iraniens débloqués vers un pays tiers, et la République d'Azerbaïdjan a lancé une opération militaire au Haut-Karabakh. C'était les principaux titres de l'actualité, voici le journal. Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré que l'échange de prisonniers entre l'Iran et les États-Unis était une mesure purement humanitaire. Raisi, qui se trouve à New York pour participer à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, a tenu ses propos lundi 18 septembre alors qu'il s'adressait à de hauts responsables des médias américains après que l'Iran et les États-Unis ont mis en œuvre un accord d'échange de prisonniers négocié par le Qatar. Notant que l'échange de prisonniers entre l'Iran et les États-Unis était une mesure purement humanitaire, le président iranien a déclaré « Il ne fait aucun doute que toute mesure prise par les États-Unis pour respecter leurs engagements renforcera notre confiance ». Le président iranien Ebrahim Raisi a rencontré le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, ainsi que ses homologues algériens, croates et kazakhs, dans le cadre de son agenda de voyage à New York, tout en appréciant les efforts d'Antonio Guterres lors de son entretien avec le secrétaire général des Nations unies, le président Raisi a souligné que l'attention portée aux revendications des nations concernant la mise en œuvre de la justice, l'élimination de la discrimination et de la famine, ainsi que le rétablissement d'une sécurité stable, étaient des principaux devoirs de l'Organisation des Nations Unies. Le président iranien a poursuivi que le bellicisme est la nature des grandes puissances et du système hégémonique, et que la lutte contre le maximalisme et l'hégémonie des grandes puissances était l'une des attentes des peuples envers cette instance internationale. Il a par ailleurs qualifié de nécessaires les actions des Nations unies pour empêcher les actes dangereux perturbant la paix et la stabilité du monde. La Corée du Sud confirme le transfert d'actifs iraniens débloqués vers un pays tiers. Ces actifs avaient été gelés en Corée du Sud en raison des sanctions américaines contre l'Iran. La confirmation de la Corée du Sud intervient un jour après que le ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé que quelque 6 milliards de dollars d'actifs iraniens étaient accessibles à la banque centrale iranienne. Le ministère a ajouté que les fonds seront dépensés en fonction des besoins et des priorités de l'Iran. Il a également dénoncé comme illégales et inhumaines les mesures prises par Washington pour empêcher l'Iran d'accéder à ses ressources financières dans d'autres pays. Les fonds iraniens étaient bloqués dans deux banques sud-coréennes depuis 2018. La République d'Azerbaïdjan affirme avoir lancé une opération militaire au Haut-Karabakh, une région qui est à l'origine d'un conflit amer entre l'Arménie voisine et la République d'Azerbaïdjan depuis des décennies. Le ministère azerbaïdjanais de la Défense affirme utiliser des armes de haute précision en première ligne et en profondeur dans le cadre de cette opération. Cette décision intervient quelques heures après que Bakou a signalé deux explosions de mines distinctes au Karabakh qui ont tué 6 personnes, dont des membres du ministère azerbaïdjanais de l'Intérieur. Bakou a imputé les explosions à ce qu'il appelle des groupes armés arméniens illégaux. Le ministère azerbaïdjanais de la Défense affirme que les couloirs humanitaires ont été établis pour évacuer les civils du Haut-Karabakh. Et l'Organisation de coopération islamique a condamné les incursions des colons sionistes dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa sous la protection des forces du régime sioniste. L'OCI a déclaré que les incursions presque quotidiennes des Israéliens dans la mosquée Al-Aqsa constituent une violation flagrante de la Convention de Genève et du droit international. L'organisation a également appelé la communauté internationale à demander des comptes à Israël et à mettre fin aux atrocités commises par le régime sioniste. Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré que si les États-Unis cessaient de s'ingérer dans les affaires intérieures des pays riverains du Golfe Persique et d'autres pays du monde, les nations du monde et de la région vivraient une meilleure vie. Les ingérences et la présence des États-Unis dans la région du Golfe Persique sont loin d'être des éléments de sécurité, a déclaré le président Raisi. Le président de la République islamique d'Iran, qui s'est rendu à New York pour participer à la 78e Assemblée générale des Nations unies, a eu une conférence de presse à laquelle ont participé des directeurs et des rédacteurs en chef de plusieurs médias américains. Lors de cette réunion, les directeurs et les rédacteurs de la chaîne d'information NBC, du Wall Street Journal, du Washington Post, de Newsweek, de Politico et de Reuters ont posé des questions au président Raisi sur diverses questions, dont l'échange des prisonniers entre les États-Unis et la République islamique d'Iran, la nouvelle approche du gouvernement iranien dans le développement de sa politique régionale de bon voisinage, les négociations sur le maintien du plan global d'action conjoint sur le programme nucléaire civil iranien, la levée des sanctions et la normalisation des relations de certains pays arabes avec le régime sioniste. Le président iranien a également répondu aux questions posées sur une utilisation supposée d'armes iraniennes par la Russie lors du conflit en Ukraine. En ce qui concerne le déblocage des avoirs iraniens et l'échange de prisonniers entre la République islamique d'Iran et les États-Unis, le président Raisi a déclaré que ces fonds bloqués, en raison des sanctions secondaires des États-Unis, appartiennent à la nation iranienne et qu'ils seront consacrés dès leur déblocage à subvenir aux besoins des citoyens. Il a qualifié le récent échange de prisonniers entre l'Iran et les États-Unis de mesure humanitaire et a déclaré « Il est certain que toute mesure prise par la partie américaine pour respecter ses engagements sera pour nous un facteur de confiance ». interrogé sur le processus des négociations du plan global d'action conjoint de 2015 sur le nucléaire civil iranien et la levée des sanctions, le président Ebrahim Raisi a déclaré que la violation répétée des engagements pris dans le cadre de l'accord nucléaire de 2015 par les Américains a créé un contexte de méfiance dans les pourparlers nucléaires. Se référant à la reconnaissance par l'Agence internationale de l'énergie atomique du caractère purement pacifique des activités nucléaires de la République islamique d'Iran, le président Raisi a rappelé que les 15 derniers rapports trimestriels de l'Agence internationale de l'énergie atomique confirmaient qu'il n'existait aucune dérive dans le programme nucléaire civil iranien. Le président Raisi a ajouté, dans le cadre des accords nucléaires de 2015, la République islamique d'Iran a été la seule partie qui a respecté à la lettre ses engagements, tandis que les États-Unis et les trois signataires européens de l'accord ont violé à de nombreuses reprises leurs engagements et n'ont pas respecté leurs obligations. Selon le président Raisi, l'opinion publique américaine, à ce stade, doit demander à son gouvernement pourquoi la politique de pression maximale et de sanctions contre l'Iran se poursuit malgré la mise en œuvre des engagements de l'Iran et l'absence de toute dérive dans les activités nucléaires de Téhéran. Le président Raisi a considéré la promotion des relations de la République islamique d'Iran avec les pays voisins comme l'une des priorités de son gouvernement et a souligné l'élément qui perturbe essentiellement les relations des pays de la région les uns avec les autres, c'est l'intervention des puissances étrangères, notamment les États-Unis.
Bonjour à tous, bienvenue ici dans les studios de Presse TV français, ici dans la capitale iranienne, Téhéran. Le sujet de ce numéro du débat concerne donc le Sahel et ses évolutions, notamment le pacte de défense trilatéral qui est pour là pour s'entraider pour les pays du Sahel. Alors on vous propose tout de suite d'avoir un reportage qui nous résumera donc la situation du Sahel et par la suite nous ferons venir donc nos invités. D'abord le reportage.
Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont signé un pacte de défense trilatéral engageant les trois pays du Sahel à s'entraider en cas d'attaque militaire contre l'un d'entre eux. Les juntes militaires du Niger, du Mali et du Burkina Faso, trois pays d'Afrique de l'Ouest, ont signé un accord de sécurité commun appelée Alliance des États du Sahel, s'engageant à s'entraider en cas d'agression étrangère contre l'un des trois pays. Les trois pays se démènent pour contenir les terroristes liés à Al-Qaïda et à Daesh et ont également vu leurs relations avec leurs voisins et leurs partenaires internationaux mises à mal par des coups d'État militaires. Le dernier coup d'État au Niger a creusé un fossé supplémentaire entre les trois pays et le bloc régional, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui a menacé de recourir à la force pour rétablir l'ordre constitutionnel dans le pays. Suite à cette menace, les dirigeants du Mali et du Burkina Faso se sont engagés à venir en aide au Niger si la CEDEAO mettait sa menace à exécution. Selon la charte du pacte signé par les trois pays, toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale d'une ou plusieurs parties contractantes sera considéré comme une agression contre les autres pays signataires de l'accord. Toujours sur la même page, les autres États seraient prêts à fournir une assistance individuelle ou collective, voire à recourir à la force armée si cela s'avérait nécessaire. Les trois pays étaient auparavant membres de la force conjointe Alliance G5 Sahel, soutenue par la France avec le Tchad et la Mauritanie, lancée en 2017 sous le prétexte de lutter contre les groupes terroristes Al-Qaïda dans la région.
Alors nous revoilà dans les studios, tout de suite la venue de nos invités, Monsieur Jean-Maxime Corneille, expert politique et spécialiste dans les questions stratégiques. Bonjour Monsieur Corneille, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Bonjour, bonjour Téhéran, merci également pour votre invitation.
Alors, Monsieur Corneille, cette évolution au Sahel, ce pacte de défense, est-ce en réponse à certains mouvements géostratégiques faits par l'Europe, en quoi c'est important pour le Sahel, ce pacte, selon vous ?
Alors, c'est important dans un certain contexte. Il faut d'abord comprendre que la France, n'ayant depuis des années pas su choisir des alliances intelligentes, parce que la France a été détournée depuis 2007 par les intérêts anglo-américano-israéliens, je l'ai déjà dit sur votre antenne à répétition, et bien donc la France est broyée entre deux influences, que sont d'un côté l'influence anglo-américano-israélienne, et de l'autre l'influence globalement de la Russie et de la Chine, qui reprennent les anciennes constantes de la présence française en Afrique, sauf qu'ils le font évidemment sans la France, parce que la France a aujourd'hui... C'est aujourd'hui un fait aux intérêts anglo-américano-israéliens. Ça, c'est le contexte. Dans ce contexte, une entente entre les trois pays d'Afrique sahélo, de cette bande sahélo-saharienne, est d'une certaine façon positive. En revanche, ce stade, sur les luttes d'influence interne, dont aucune n'est résolue à ce stade. C'est-à-dire que cette alliance va globalement devenir l'enjeu d'une lutte d'influence, là encore, entre les deux parties que je viens de citer, d'un côté les anglo-américano-israéliens et de l'autre les russo-chinois, la France étant broyée entre ces deux influences majeures. Donc il est, d'un point de vue extérieur, de toute façon une bonne chose que les pays africains prennent en main leur souveraineté et leur sécurité commune. C'est ce que depuis des années la France, quand elle était, on va dire, intelligente, avait tenté de mettre en place à différentes occasions. C'est-à-dire une sécurité autonome qui soit autre chose qu'une présence militaire globalement à l'américaine ou à l'anglo-américano-israélienne, c'est-à-dire une présence militaire qui ne servait qu'à piller les ressources sans rien développer autour. Historiquement, la France avait une présence militaire, mais elle développait également les alentours. Et surtout, la France protégeait, c'était l'objet de la France-Afrique, la France protégeait les pays africains, et c'est ce que l'on ne dit plus aujourd'hui. La France protégeait les pays africains contre les multiples déstabilisations anglo-américano-israéliennes. C'est-à-dire que là, nous avons aujourd'hui à la fois une présence française qui est devenue inutile et dont la seule légitimité qui devient un peu trop grossière est d'assurer le prélèvement, pour ne pas dire le pillage, mais disons que je suis français, je veux dire bien sûr le prélèvement des ressources locales, mais sans plus qu'il n'y ait un développement associé qui était en réalité cette synergie qui s'appelait la France-Afrique. C'est-à-dire que nous avions tout développé à partir de rien sur place, et si l'on avait laissé faire la France, nous aurions développé seul la moitié de l'Afrique avec l'aide des colonisés. Donc voilà, ce contexte est celui d'un basculement entre une ancienne logique de développement collective et qui est devenue progressivement un néocolonialisme dont la France s'est en effet faite la complice, et les choses étant devenues un peu trop voyantes, le parapluie de défense français ne fonctionnant plus bien, comme on l'a vu en Côte d'Ivoire notamment, eh bien, les Africains, d'une part, mettent en place des structures communes, mais je dis que ces structures communes vont devenir, là encore, l'objet d'une lutte d'influence qui n'est sans doute pas terminée. Nous allons avoir l'occasion d'en reparler.
Merci, M. Corneille. Alors, je rebondis sur vos propos concernant donc ce pacte. Alors, on a vu d'abord, ça a commencé avec le Mali. Par la suite, ça a continué avec le Burkina Faso, qui n'a pas eu une réaction très forte de la part de la CEDEAO. On a vu la CEDEAO revenir sur ses propos concernant le Burkina Faso. Et là, on a eu le Niger, où la CEDEAO, elle est encore plus dure, a des propos encore encore plus dur que même avec le Mali. Alors, est-ce que ce pacte n'est pas en réponse aux réponses agressives de la CEDEAO, mais pas seulement, puisque la semaine dernière, on nous annonçait des mouvements militaires de la part des Français, aux alentours notamment de la Côte d'Ivoire, et ce pacte arrive une semaine après. Est-ce qu'il n'y aurait pas une relation directe entre les propos de la CEDEAO, mais également ces mouvements militaires? Parce que ce pacte dit bien que c'était une entraide en cas d'attaque militaire, donc c'est très spécifique.
Tout à fait. En fait, on voit vraiment, on l'a vu au sujet du Niger, mais je pense qu'il y a une lecture par-dessus. On l'a vu donc, d'un côté, c'est un peu comme l'ONU concernant et l'AIEA au sujet de l'Iran. C'est-à-dire que les institutions internationales placées depuis des années sont devenues un enjeu, sont toujours un enjeu. De fait, l'influence existe toujours. Ce sont des enjeux d'influence. Et que ne pouvons réellement saisir. En fait, il y a les deux anciennes logiques. Comme je vous disais, anglo-américano-israélienne d'un côté, russo-chinoise de l'autre, et toutes les institutions préexistantes en sont l'enjeu, sont l'enjeu de cette rivalité et de ces luttes d'influence. Et en l'occurrence, nous avons vu, je pense qu'il y a évidemment ce que vous dites, c'est-à-dire la logique dans laquelle la CEDEAO est potentiellement utilisée contre potentiellement des intérêts souverains africains locaux, mais nous avons vu aussi, je pense, qu'il y a aussi une autre logique, qui est cette fois moins connue, c'est que la CEDEAO est aujourd'hui utilisée, en tout cas les jeux d'influence autour de la CEDEAO sont utilisés pour que la France soit au final la seule à se compromettre et sera la seule à être abandonnée, ce qui parachèvera l'œuvre de destruction de la France-Afrique dans laquelle les Français eux-mêmes ont été complices depuis la présidence Sarkozy et surtout Hollande. C'est-à-dire qu'on a placé à chaque fois des incompétents et des gens qui créent des décisions tellement manifestement contraire aux bonnes relations avec nos anciens partenaires africains, ce qui font qu'au final, on l'avait vu au sujet de l'intervention éventuellement militaire récente, dont la CEDEAO, il était question que la CEDEAO en soit l'une des parties prenantes, en réalité, c'est comme en Syrie à l'été 2013, la France tergiverse et au final va être la seule humiliée dans l'affaire. La seule durablement humiliée.
Oui, excusez-moi de vous interrompre. Alors, vous êtes en train de dire que... Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, quand on a vu avec le Burkina Faso, on a pensé que le CEDEAO, finalement, n'était pas contre le mouvement qui se passait au Sahel ou au Burkina Faso à cause de l'insécurité qui régnait au Sahel. Mais leur réaction vis-à-vis du Niger... Alors, ce que vous êtes en train de dire, c'est que le CEDEAO n'est pas forcément contre la direction que va le Sahel, mais est en train de jouer un jeu de telle manière à ce que, finalement, les Français se mangent leurs mains, quoi. Ils se déstabilisent complètement par rapport à l'Afrique?
C'est ça, parce qu'en réalité, vous devez comprendre que la France est aujourd'hui détournée par des intérêts anti-français. Ça veut dire que ces intérêts pilotent la France de façon à ce que la France soit discréditée. Et l'écho de ce que l'on a entendu, les mots tout à l'heure concernant le fait que la France est définitivement morte en Afrique, ça rappelle les mots d'un maréchal de l'Empire britannique. C'était un Sud-Africain, en fait, le maréchal Smuts, en 1940. Après la défaite française de 1940, dont il serait intéressant d'évoquer les causes, mais ce n'est pas notre sujet ici. On avait entendu le maréchal Smuts, donc au nom de l'Empire britannique, un grand dignitaire de l'Empire britannique, vociférer en disant « La France est morte, la France est définitivement morte » et ces gens étaient heureux que la France soit enfin détruite, car la France fut historiquement le pays opposé aux manipulations de l'Empire britannique contre à peu près le monde entier. C'est-à-dire que, encore une fois, là, nous assistons à la France soumise par le mondialisme, et ce n'est pas très lisible pour des gens qui, depuis des années, vocifèrent contre la France-Afrique. Là, nous parlons également des Africains qui ne comprennent pas et qui oublient à quoi servait historiquement la France-Afrique. Fondamentalement, c'était à éviter que les djihadistes et les autres groupes asymétriques que nourrissent sans cesse les anglo-américano-israéliens par le terrorisme et par le... C'est vieux de 5 siècles, cette logique de ramollise, de visant à ramollir les États non coopératifs, et l'Iran évidemment a aussi subi ce genre de choses. C'est-à-dire que tous les 4 matins, quand vous déplaisez à l'Empire britannique, vous avez un groupe de terroristes, de libération de machin, c'était Jundoula en Iran, c'était les soi-disant combattants du peuple, etc. L'Occident détourné, l'internationalisme financier ayant détourné l'Occident, sécrète toujours des troupes mercenaires asymétriques. Et c'était contre ces troupes mercenaires asymétriques que la France-Afrique protégeait les pays africains alliés de la France. Et nous avons bien vu aujourd'hui, regardez avec l'exemple du Gabon, une fois que ce pays a enfin été soumis dans le Commonwealth récemment, eh bien nous avons des déstabilisations, mais il n'y a plus des déstabilisations, on va dire des jeux politiques qui sont en réalité subtilement subversifs, mais comme par hasard, vous n'avez plus du tout de fonds de libération de machin ou de terroristes de trucs. C'est-à-dire que toujours, une fois que ces pays sont soumis à l'internationalisme financier, on voit bien qu'une pacification s'opère dans le sens où il n'y a plus de terrorisme, tout va bien, quand ces pays sont dociles, mais c'est parce qu'en réalité, ils deviennent des captifs pillés au gré d'un pillage qui ne dit pas son nom et qui est bien pire que celui que ne fut jamais la France-Afrique. Et donc au final, nous, de fait, la rhétorique internationaliste consiste à blâmer la France pour au final légitimer son éviction au bénéfice d'intérêts qui sont bien moins constructifs que la France et la France-Afrique qui avaient créé là encore des logiques de développement. Merci. C'est la destruction de ces logiques de développement qu'il nous faut comprendre.
Merci Monsieur Corneille. Alors notre deuxième invité nous a rejoint, Luc Michel, analyste politique et surtout panafricaniste. Bonjour Monsieur Luc Michel, est-ce que vous êtes avec nous?
Oui, bonjour. Beaucoup de problèmes politiques et historiques.
On est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui sur les plateaux. Alors aujourd'hui, on parlait de ce fameux pacte de défense concernant donc le Sahel, le sujet étant l'évolution, les évolutions au Sahel. Alors, Monsieur Luc Michel, vous connaissez bien le sujet. Ce n'est pas la première fois qu'on vous est ici sur les plateaux de télévision pour parler du Sahel. Il y a une question qui se pose. Ce fameux pacte de défense, outre le fait que c'est en réaction aux réactions agressives de la France ou même de la CEDEAO, il y a une promesse que le Burkina Faso a faite concernant les routes et la stabilisation des routes, des voies terriennes, terrestres sur le Sahel. Est-ce que ça va jouer un rôle? Est-ce que le Niger, donc je rappelle le Niger, le Mali, le Burkina Faso vont pouvoir enfin finalement débloquer toute la situation terrestre qui se passe à cause du terrorisme là-bas?
Écoutez, j'ai écouté avec intérêt ce qu'a dit votre autre invité. Il est tout à fait exact que l'Amérique veut remplacer depuis 2006 la France en Afrique. À partir de 1975, elle a été avec Giscard d'Estaing le gendarme de l'Occident d'Afrique. Mais à partir de 2016, les Américains vont. Mais ça n'en fait pas de la France Afrique et de la France quelque chose de sympathique. La France-Afrique, c'est une puissance impérialiste, comme les anglo-saxons. Ce sont des crocodiles qui se disputent le même marigot. Il est bien exact de ce qu'on essaye de faire. La CDA a toujours été une version combrato alliée à Bruxelles et maintenant aux États-Unis. Tout cela ne fait pas de ces gens. Les gens qui n'aiment pas. Ce sont tous des crapules, comme on dit en français, des larrons en fond.
Merci, Monsieur Luc Michel. Alors, pour revenir, merci pour la réponse concernant donc, les propos de Monsieur Jean-Maxime Corneille, notre autre expert du jour. Et concernant donc, les voies terrestres au niveau du Sahel, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir donc, une amélioration dans le temps au vu de ce pacte de défense trilatéral?
La question est pour moi.
La question est pour Monsieur Luc Michel et vous répondrez juste après. Monsieur Luc Michel.
Donc, excusez-moi.
Écoutez, il y a quelque chose que vous oubliez dans l'équation, c'est le grand retour de la Russie en Afrique depuis 2015-2016. Ces trois États sont crédibles parce qu'ils sont alliés à la Russie. Partout où la Russie est installée, la déstabilisation stoppe. Et dans les pays où les chefs d'État sont appuyés par la Russie, les coups d'État ne sont pas possibles comme au Gabon. C'est cela qu'il faut retenir.
Merci, Monsieur Michel. Alors, Monsieur Corneille, je vous ai vu hocher de la tête. Vous êtes d'accord avec les propos de Luc Michel concernant le fait que la présence russe permet d'éviter donc des crashs politiques de nouveau?
Absolument, absolument. Et il faut comprendre, et là je reprends la façon dont vous en avez parlé juste avant, ce n'est pas le terrorisme qui déstabilise la bande sahélo-sahélienne. Ce sont les anglo-américano-israéliens qui ont toujours créé le terrorisme. Et en réalité, ça fait depuis 5 siècles avec les gueux de mer. Et ça fait depuis 1930 que la France fut le premier État occidental à le dénoncer. C'est-à-dire que ce n'est pas une nouveauté, mais ce n'est pas le terrorisme en tant que génération spontanée qui change les choses. Ce sont les anglo-américano-israéliens qui veulent une prédation institutionnalisée à l'échelle mondiale de toutes les matières premières stratégiques et qui pour cela génère des troupes mercenaires asymétriques, y compris usant des procédés terroristes pour soumettre les États non coopératifs, que cela soit l'Iran, que cela soit la France, que cela soit absolument, je pourrais vous en citer 50 exemples à la suite, ça fait depuis 5 siècles. Donc le terrorisme, il n'y a pas, c'était Luis González Mata, un ancien agent de l'Espagne franquiste qui avait travaillé pour la CIA et qui avait dénoncé tout cela dans de nombreuses déstabilisations de l'Amérique du Sud. Il disait, dans un livre qui est introuvable aujourd'hui, Les vrais maîtres du monde, il n'y a pas de génération spontanée du terrorisme. Ou alors c'est un épiphénomène rarissime, mais avant tout, le terrorisme est artificiellement créé. Ce n'est qu'un moyen, de soumission des États non coopératifs. Il faut vraiment le garder à l'esprit. Tout le reste, ensuite, n'est que le fait de décliner la même logique à l'échelle du monde. J'insiste sur ce point.
Et donc, pour parler donc des Russes, pour revenir donc aux propos sur, concernant le fait que l'entité russe en Afrique permet de stabiliser la voie politique et de stabiliser également le territoire, vous êtes d'accord avec ce point de vue partagé par M. Luc Michel ?
Bien sûr, parce que tout simplement, les Russes font de la vraie diplomatie, ce qu'aujourd'hui la France ne fait plus. Rappelez-vous, j'ai parlé également dans un autre contexte au sujet de l'AIEA, de ce que disait l'ambassadeur Comte de Saint-Hollaire, c'est-à-dire la façon dont l'ancienne vieille diplomatie basée sur la synchronisation des intérêts des États se faisait globalement tailler des croupières par la soi-disant nouvelle diplomatie qui était en réalité d'inspiration mondialiste, c'est-à-dire subversive, qui servait en réalité à tromper les diplomates, à leur faire endosser des consensus artificiellement suscités, artificiellement créés dans leur dos, ce qui déresponsabilisait les diplomates, mais ce qui en réalité aboutissait à la destruction du monde entier.
Merci, monsieur.
Donc, en effet, la
monsieur
Russie
Cornet.
Jouant un vrai. Voilà.
Merci, monsieur Cornet. Alors, monsieur Luc Michel, la question à savoir, est-ce que la France ou la CEDEAO va oser donc maintenant attaquer le Niger au vu de la situation présente ?
Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est un gigantesque coup de bluff. Et l'alliance va venir le Burkina Faso et le Mali au secours du Niger, avec derrière eux la Russie, l'Algérie et l'Iran, ça a dissuadé les Occidentaux d'une aventure militaire. On a vu ce qu'a donné l'agression de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis pour détruire la Jamaïque de Kadhafi. Son époque aura eu au bout de 10 ans. Ce serait une seconde catastrophe qui a dû arriver aujourd'hui.
Merci, M. Luc Michel. Alors, M. Corneille, on sait que le Niger, la population du Niger, on ne parle pas des militaires, font pression aux alentours des bases militaires, font pression aux alentours de l'ambassade française, mais aucune violence n'est faite, ce sont des pressions, des pressions de présence. Et vous êtes d'accord avec le propos de M. Luc Michel, malgré toute cette pression, la France et la CEDEAO ne vont pas faire le premier mouvement d'attaque?
Évidemment, et la France, premièrement, n'en a plus les moyens, et deuxièmement, surtout, ce que je vous disais juste avant, c'est que, comme à l'été 2013 en Syrie, lorsque l'on agitait la France contre la Syrie pour dire « oui, nous allons frapper », c'est uniquement parce que la diplomatie française pensait que et savait que les États-Unis voulaient attaquer, sauf que les Anglo-Américains ont abandonné la France en rase campagne, qui s'est couverte de ridicule, en montrant au monde comme elle était la voix de son maître, c'est-à-dire la voix de ses maîtres anglo-américains depuis peu de temps, malheureusement, et qui donc était le seul pays à être belliciste quand tous les autres avaient sauté du train en marche, nommément les Britanniques en tête. C'est-à-dire que là encore, il y a un but qui est pensé sur 50 ans, c'était la volonté de sortir la France de l'Afrique depuis bien longtemps. C'est ce but-là qui est en train d'apparaître à partir de la façon dont on pousse la France à se couvrir de ridicule, c'est-à-dire en faisant assaut de bellicisme, en montrant « oui, nous allons intervenir », alors qu'en réalité, tout se positionne de façon à dissuader la France d'intervenir, et c'est l'étape suivante de, je vous dirais, l'époque 56-99. 56, c'était Suez, 99, c'était la non-intervention française contre le coup d'État internationaliste, contre Conan Bédier en Côte d'Ivoire. À partir de là, le message avait été compris que le parapluie français ne protégeait plus personne. Et donc, nous en voyons l'aboutissement. Tout se passe sans la France à présent, et la France sera gros Jean comme devant au final.
Merci.
Avec son intervention.
Merci, Monsieur Corneille. C'est ici que, sur ces derniers propos, que se finit notre débat. Monsieur Luc Michel, je vous remercie pour votre participation. Monsieur Corneille, de même. Merci pour votre participation. Merci pour vos analyses, votre expertise. C'était ici sur les plateaux de Presse TV, dans la capitale iranienne, Téhéran. Je vous dis vous, chers téléspectateurs, à bientôt pour un nouveau numéro. N'hésitez pas à voir ou revoir nos anciens numéros sur notre page internet ou nos réseaux sociaux. Au revoir et à bientôt.
Histoire des sciences en Iran. L'année 2022 a été nommée l'année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable et est célébrée dans le monde entier. Dans ce programme, nous allons essayer de vous familiariser avec le brillant passé des sciences fondamentales en Iran et les figures de proue dans ce domaine. Ce programme vise à faire connaître les acquis uniques d'une nation qui est restée inconnue malgré ses innombrables services à l'humanité. Chers amis auditeurs, bonjour. La semaine dernière, nous vous avons fait découvrir des parties des activités de la République islamique d'Iran dans le domaine aérospatial, commencées avant la révolution islamique en Iran et développées jusqu'aujourd'hui. De même, nous avons parlé de la construction des satellites et le processus de leur lancement dans l'espace. Aujourd'hui, nous vous présenterons d'autres satellites fabriqués en Iran, ce qui a fait que le nom de l'Iran dans le domaine aérospatial figure sur la liste des pays qui ont réalisé des activités remarquables dans ce domaine. Merci de nous avoir accompagnés durant ce programme. Le satellite Omid a été lancé dans l'espace en 2008 et le deuxième lancement du lanceur Saphir a été réalisé avec succès en transportant le premier satellite Omid. Ce satellite a fait 15 fois le tour de la Terre toutes les 24 heures et a envoyé des rapports sur des études de mesure aux stations au sol en Iran. La NASA a également confirmé que le lancement était un succès. Le satellite Omid est un satellite léger, a été mis en orbite par le lanceur Saphir 2. Ce satellite a été placé sur l'orbite terrestre dans le but d'établir une communication mutuelle entre le satellite et la station au sol en déterminant les caractéristiques orbitales et la télémétrie des sous-systèmes de communication. Les responsables de la République islamique d'Iran ont toujours annoncé qu'atteindre l'orbite géostationnaire de 36 000 km d'altitude, mettre en application et accélérer l'industrie spatiale, lancer trois satellites de télécommunication aidant à améliorer les systèmes d'information géographique constituent les propriétés de la République islamique d'Iran dans le domaine des sciences spatiales. Le renforcement de tous les éléments de l'industrie spatiale et l'attention maximale à la diplomatie spatiale, la mise en application de l'industrie spatiale, la réalisation des programmes spatiaux du pays, la fourniture des ressources nécessaires pour accélérer les programmes spatiaux constituaient les ordres du jour les plus importants des différents gouvernements arrivés au pouvoir du pays. L'application de l'industrie spatiale dans le pays comporte trois étapes importantes. La réception de données satellitaires en ligne à partir de 12 satellites, le lancement d'un centre d'archivage et de traitement des données satellitaires et la mise en place d'une plateforme de services pour les entreprises. Le programme de l'Agence iranienne de l'espace a commencé en 2018 avec des plans sur l'utilisation des satellites. L'Agence spatiale iranienne a fait de bons pas dans cette direction en organisant directement 50 séminaires et événements en créant une plateforme d'accès gratuit et durable aux entreprises. Plus de 250 entreprises iraniennes pleinement actives dans le domaine de l'espace sont déjà identifiées. L'un des satellites construits par la République islamique d'Iran est le satellite Faj. Ce satellite a été construit par le groupe spatial Compagnie des industries électroniques et avec la coopération des secteurs privés et universitaires du pays. Ce satellite a été lancé en 2014 et a jusqu'à présent envoyé des images de haute précision à la station au sol. La mission prévue du satellite Faj était le transfert orbital, la photographie pour la cartographie et la météorologie et certaines missions de recherche. L'utilisation du satellite Faj a aidé à tester, à vérifier les technologies utilisées dans les prochains satellites. Par ailleurs, l'amélioration des sous-systèmes de traitement et l'augmentation de l'altitude et de la durée de vie orbitale feront partie des tâches du satellite Faj. Parmi les autres missions à effectuer du satellite Faj, on peut citer la réalisation d'un processus complet de tous les sous-systèmes requis dans la technologie spatiale, la réduction des coûts de lancement grâce à la réalisation du processus de transfert orbital dans le satellite, la construction du premier satellite iranien doté d'une capacité de transfert orbital. Alors qu'il était annoncé que le satellite Faj resterait en orbite pendant un an et demi, ce satellite est tombé le 6 mars 2013. La descente orbitale rapide de ce satellite indique des performances incorrectes du système de propulsion et des propulseurs de satellites. Le satellite iranien Payan a été lancé en janvier 2018 avec le lanceur de satellite iranien Simorgh. Mais selon l'annonce de Mohammad Javad Azari-Jahromi, le ministre des Communications de l'époque, son lancement n'a pas abouti et le satellite Payam n'a pas été lancé et n'a pas été mis en orbite. La conception du satellite Payam a commencé en 2005. Ce satellite, pesant 100 kg, était une série de microsatellites destinés au développement de la technologie spatiale, conçu et construit pour mener à bien la mission d'imagerie. L'altitude orbitale conçue pour le satellite Payam est de 500 km avec une inclinaison orbitale de 55 degrés et il envoie des images avec une précision de 45 mètres et la prévision initiale indiquait qu'il resterait sur l'orbite terrestre pendant environ 3 ans. Force est de constater que l'Iran a également réussi à lancer des satellites militaires dans l'espace. En avril 2020, le pays a annoncé le lancement réussi de son premier satellite militaire en orbite en mars 2022, il a lancé son deuxième satellite militaire dans l'espace. Toujours en août de l'année dernière, l'Iran a lancé Rayaan, un satellite d'imagerie à haute résolution en orbite. Le satellite a été envoyé dans l'espace depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, exploité par Moscou à l'aide d'une fusée Soyuz 2-1B. Le satellite iranien Rayaan a été lancé en orbite par une fusée Soyuz le 9 août 2022 depuis le cosmodrome russe de Baïkonour au Kazakhstan. Ce satellite est guidé et contrôlé par des stations situées en Iran. Le cosmodrome de Baïkonour, créé en 1956, est une base de lancement russe située au centre de Kazakhstan, à proximité de la ville de Baïkonour. Le centre de contrôle des opérations du satellite, les stations d'envoi de commandes et d'acquisition de données satellitaires de Rayaan se trouvent uniquement sur le territoire de la République islamique d'Iran et sous la direction de l'Organisation spatiale iranienne. L'envoi de commandes et la réception d'informations de ce satellite se font selon l'algorithme crypté qui a déjà été intégré par les chercheurs de l'Organisation spatiale, et dans ce processus, aucun autre pays ne peut accéder à ces informations. Le satellite iranien envoie des photos de haute qualité à raison de 4 reprises par jour. Les cartes et les données transmises par Rayaan sont utilisées à des fins civiles telles que l'amélioration de la productivité agricole, la surveillance des ressources en eau, la gestion des risques de catastrophes naturelles, la surveillance des changements d'utilisation des terres, l'observation des constructions illégales, la lutte contre la déforestation, la surveillance des risques environnementaux et des explorations minières et des frontières du pays. En février, l'Iran a dévoilé deux satellites de fabrication nationale de télécommunications et d'imagerie conçus et fabriqués par des spécialistes du pays. Les deux réalisations technologiques baptisées Naïdou et Tolu 3 ont été présentées lors d'une cérémonie qui s'est tenue en mai à Téhéran à l'occasion de la Journée nationale iranienne des technologies spatiales. La création et le développement d'infrastructures réelles et satellitaires sont l'une des priorités de l'Organisation spatiale iranienne. Et si l'Iran parvient à stabiliser complètement le cycle de la technologie spatiale dans ce domaine, il deviendra le premier pays de la région et le 16e pays au monde.
Chers auditeurs, vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur onde courte, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure, sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Thank you.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.